vous allez entendre une lecture de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains. La traduction utilisée pour cet enregistrement est celle du Nouveau Testament en français courant, publiée par les sociétés bibliques francophones sous le titre « Bonne nouvelle aujourd'hui ». La lettre de Paul aux Romains est lue ici par Yves Poulain. Chapitre 1.
De la part de Paul, qui est serviteur de Jésus-Christ, et que Dieu a appelé à être apôtre en le choisissant pour annoncer sa bonne nouvelle. Dieu avait promis cette bonne nouvelle depuis longtemps dans les Saintes Écritures, par l'intermédiaire de ses prophètes. Elle se rapporte à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'homme, il était descendant du roi David, mais selon l'Esprit Saint, il a été manifesté Fils de Dieu avec puissance quand il a été ressuscité d'entre les morts. Par lui, Dieu m'a accordé la faveur d'être apôtre pour l'honneur du Christ, afin d'amener des hommes de toutes les nations à croire en lui et à lui obéir. Vous faites aussi partie de ces hommes, vous que Dieu a appelés pour que vous apparteniez à Jésus-Christ. Je vous écris à vous qui habitez Rome, vous tous que Dieu aime et qu'il a appelés à vivre pour lui. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donne la grâce et la paix. Tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Dieu sait que je dis vrai, lui que je sers de tout mon cœur en annonçant la bonne nouvelle qui concerne son Fils. Il sait que je me souviens toujours de vous toutes les fois que je prie. Je demande à Dieu que, par sa volonté, il me soit enfin possible de me rendre chez vous. Car je désire beaucoup vous voir, afin de vous apporter un don de l'Esprit Saint pour vous rendre fort. Plus encore, je désire être parmi vous pour que nous recevions ensemble un encouragement, moi par votre foi et vous par la mienne. Je veux que vous sachiez, frère, que j'ai souvent fait le projet de me rendre chez vous, mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. Je souhaitais que mon travail produise un résultat chez vous aussi, comme il en a produit parmi les autres nations du monde. Car c'est mon devoir d'aller auprès de tous, les civilisés comme les non-civilisés, les gens instruits comme les ignorants. C'est pourquoi j'ai ce désir de vous apporter la bonne nouvelle à vous aussi qui habitez Rome. Car je suis fier d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient, les Juifs d'abord, mais aussi ceux qui ne sont pas Juifs. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les hommes justes devant lui. C'est par la foi seule, du commencement à la fin, comme l'affirme l'Écriture. Celui qui est juste aux yeux de Dieu par la foi vivra. En effet, Dieu manifeste sa colère depuis le ciel sur tout péché et tout mal commis par les hommes qui, par leurs mauvaises actions, empêchent la vérité d'agir. Dieu les punit, car ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur a montré clairement. En effet, depuis qu'il a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voit dans les œuvres qu'il a faites. C'est là que les hommes peuvent les connaître, de sorte qu'ils sont sans excuse. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il convient de le faire pour Dieu. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur cœur insensé s'est rempli d'obscurité. Ils déclarent être savants, mais ils sont fous. Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, ils ont adoré des images représentant l'homme mortel, des oiseaux, des animaux à quatre pattes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des actions impures, selon les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils se conduisent d'une façon honteuse les uns avec les autres. Ils échangent la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils adorent et servent ce que Dieu a créé, au lieu du Créateur lui-même, qui doit être loué pour toujours. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses. Leurs femmes elles-mêmes changent les relations naturelles en des relations contre nature. De même, les hommes abandonnent les relations naturelles avec la femme et brûlent de désir les uns pour les autres. Les hommes commettent des actions honteuses les uns avec les autres et reçoivent ainsi eux-mêmes le châtiment que mérite leur égarement. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée pour qu'ils fassent ce qu'ils ne devraient pas faire. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de mal, d'envie, de méchanceté. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malice. Ils répandent des bavardages et disent du mal les uns des autres. Ils sont ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, vantards. Ils inventent de nouveaux moyens de faire le mal et sont rebelles à leurs parents. Ils sont sans conscience et ne tiennent pas leurs promesses. Ils sont durs et sans pitié pour les autres. Ils connaissent bien le jugement de Dieu. Ceux qui se conduisent de cette manière méritent la mort. Pourtant, ils continuent à commettre de telles actions et, de plus, ils approuvent ceux qui les commettent aussi.
Chapitre 2.
Toi qui juges les autres, tu es donc sans excuse, qui que tu sois. Car lorsque tu juges les autres et que tu fais les mêmes choses qu'eux, tu te condamnes toi-même. Nous savons que Dieu juge d'une façon conforme à la vérité ceux qui commettent de telles actions. Penses-tu que tu échapperas au jugement de Dieu, toi qui juges ceux qui commettent ces actions alors que tu agis comme eux? Ou bien méprises-tu la grande bonté de Dieu, sa patience et sa générosité? Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu doit t'amener à changer de vie? Mais tu as un cœur dur, tu n'es pas disposé à changer. C'est pourquoi tu te prépares un châtiment encore plus grand pour le jour où Dieu manifestera sa colère et son juste jugement, et où il paiera chacun selon ce qu'il aura fait. Il donnera la vie éternelle à ceux qui s'appliquent à faire le bien et recherchent ainsi la gloire, l'honneur et la vie immortelle. Mais il montrera sa colère et son indignation à ceux qui se révoltent contre lui, désobéissent à la vérité et se laissent diriger par ce qui est mauvais. La souffrance et l'angoisse frapperont tous ceux qui font le mal, les juifs d'abord, mais aussi ceux qui ne sont pas juifs. Par contre, Dieu accordera la gloire, l'honneur et la paix à tous ceux qui font le bien, aux juifs d'abord, mais aussi à ceux qui ne sont pas juifs, car Dieu n'agit pas différemment selon les personnes. Tous ceux qui pêchent sans connaître la loi de Moïse périront sans cette loi. Mais tous ceux qui pêchent en connaissant la loi seront jugés au moyen de cette loi. Car les hommes agréables à Dieu ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la loi, mais ceux qui obéissent à ce qu'elle ordonne. Quand des étrangers qui ne connaissent pas la loi des Juifs obéissent d'eux-mêmes à ce qu'ordonne la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Ils prouvent ainsi que la façon d'agir ordonnée par la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience le montre également, ainsi que leurs pensées qui parfois les accusent et parfois les défendent. Voilà ce qui paraîtra au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce qui est caché dans la vie des hommes, comme l'affirme la bonne nouvelle que je prêche. Mais toi, tu portes le nom de Juif. Tu t'appuies sur la loi et tu es fier de ton Dieu. Tu connais la volonté de Dieu et la loi t'a enseigné à choisir ce qui est bien. Tu crois être un guide pour les aveugles, une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité, un éducateur pour les ignorants et un maître pour les enfants, parce que tu es sûr d'avoir dans la loi la présentation parfaite de la connaissance et de la vérité. Eh bien, toi qui enseignes les autres, pourquoi ne t'enseignes-tu pas toi-même? Toi qui prêches qu'on ne doit pas voler, pourquoi voles-tu? Toi qui dis qu'on ne doit pas commettre d'adultère, pourquoi en commets-tu? toi qui détestes les idoles, pourquoi pilles-tu leur temple? Tu es fier d'avoir la loi, mais tu déshonores Dieu en faisant le contraire de ce qu'ordonne sa loi. Car les Écritures l'affirment. À cause de vous, Juifs, les autres peuples disent du mal de Dieu. Si tu obéis à la loi, la circoncision t'est utile. Mais si tu désobéis à la loi, c'est comme si tu n'avais pas été circoncis. Et si l'homme qui n'a pas été circoncis obéit au commandement de la loi, Dieu ne le considérera-t-il pas comme s'il était circoncis? L'homme qui n'est pas circoncis en sa chair, mais qui obéit à la loi, te jugera, toi qui désobéis à la loi, bien que tu possèdes la loi écrite et que tu sois circoncis. En effet, le vrai juif n'est pas celui qui l'est seulement en apparence et qui est circoncis seulement de façon visible, dans sa chair, mais le vrai juif est celui qui l'est intérieurement, qui est circoncis dans son cœur, d'une circoncision qui dépend de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. Ce vrai juif reçoit sa louange non des hommes, mais de Dieu.
Chapitre 3.
Y a-t-il alors un avantage à être juif? La circoncision a-t-elle une valeur? L'avantage est grand à tous égards, et d'abord c'est aux juifs que Dieu a confié ses paroles. Que dire alors si certains d'entre eux ont été infidèles? Dieu va-t-il renoncer à être fidèle parce qu'eux ne l'ont pas été? Certainement pas. Il faut que Dieu agisse selon la vérité, même si tout homme est menteur. Comme le déclare l'Écriture, « Il faut que tu sois reconnu juste dans ce que tu dis et que tu sois vainqueur si l'on te met en jugement. » Mais si le mal que nous faisons sert à montrer que Dieu est juste, que dirons-nous? Dieu est-il injuste parce qu'il nous punit? Je parle à la manière des hommes. Absolument pas. Car si Dieu était injuste, comment pourrait-il juger le monde? Mais si mon mensonge fait apparaître d'autant plus clairement la vérité de Dieu et sert donc à sa gloire, pourquoi devrais-je encore être condamné comme pécheur? Et alors, pourquoi ne pas dire « Faisons le mal pour qu'il en sorte du bien » Certains, en effet, pour me calomnier, m'accusent de prononcer de telles paroles. Ces gens seront condamnés et ils le méritent bien. Mais quoi? Sommes-nous, nous les Juifs, supérieurs aux autres hommes? Absolument pas. J'ai déjà démontré que les Juifs et les autres hommes sont tous également sous la domination du péché. L'Écriture le déclare, « Il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui cherche Dieu. Tous se sont égarés loin de lui, ensemble ils se sont perdus. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gorge est comme une tombe ouverte. Leur langue leur sert à tromper, les paroles qui sortent de leurs lèvres sont comme du poison de serpent. Leur bouche est pleine de malédictions amères. Ils courent avec rapidité pour tuer, ils laissent la destruction et le malheur partout où ils passent. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Ils vivent sans aucune crainte de Dieu. » Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont soumis à la loi, afin que nulle excuse ne puisse sortir de la bouche des hommes et que le monde entier soit placé sous le jugement de Dieu. Car personne ne sera reconnu juste devant Dieu pour avoir accompli ce qu'ordonne la loi. La loi permet seulement à l'homme de savoir qu'il a péché. Et maintenant Dieu nous a montré comment il nous rend juste devant lui, et cela sans l'intervention de la loi. La loi et les prophètes en avaient parlé. Dieu rend les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre. Dieu l'a offert en sacrifice, pour que, par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur des hommes qui croient en lui. Dieu a voulu montrer ainsi comment il était juste. Autrefois, il avait patienté et laissé impunis les péchés des hommes. Mais, dans le temps présent, il montre comment il rend les hommes justes, car il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient en Jésus. Y a-t-il encore une raison pour les hommes de s'enorgueillir? Non, plus une seule. Pourquoi? Parce qu'ils obéissent à ce qu'ordonne la loi? Non, mais parce qu'ils croient. Car nous estimons qu'un homme est rendu juste devant Dieu à cause de sa foi, et non parce qu'il obéit à ce qu'ordonne la loi. Ou bien Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des autres peuples? Bien sûr, il l'est aussi des autres peuples, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il va rendre justes les Juifs à cause de leur foi, et les non-Juifs également par la foi. Cela signifie-t-il que par la foi, nous enlevons toute valeur à la loi? Bien au contraire, nous donnons à la loi sa vraie valeur.
Chapitre 4.
Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu? Si Abraham avait été reconnu juste par Dieu à cause des œuvres qu'il a accomplies, il pourrait s'en vanter. Mais il ne peut pas se vanter devant Dieu. En effet, l'Écriture déclare « Abraham crut en Dieu, et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. » L'homme qui travaille reçoit un salaire. Ce salaire ne lui est pas compté comme un don gratuit, il lui est dû. Mais quand un homme, sans accomplir de travail, met simplement sa confiance en Dieu qui juge favorablement le pécheur, Dieu tient compte de sa foi pour le considérer comme juste. C'est ainsi que David parle du bonheur de l'homme que Dieu considère comme juste, sans tenir compte de ses œuvres. Heureux sont ceux dont Dieu a pardonné les fautes et dont il a effacé les péchés. Heureux est l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Ce bonheur existe-t-il seulement pour les hommes circoncis? N'existe-t-il pas aussi pour les non-circoncis? Nous venons de dire que Dieu considéra Abraham comme juste en tenant compte de sa foi. Quand cela s'est-il passé? Après qu'Abraham eût été circoncis, ou avant qu'il le soit? Non pas après, mais avant. Abraham reçut plus tard la circoncision comme un signe. C'était la marque indiquant que Dieu l'avait considéré comme juste à cause de sa foi, avant qu'il ait été circoncis. Abraham est ainsi le père de tous ceux qui croient en Dieu sans être circoncis, et que Dieu considère comme juste. Il est également le père de ceux qui sont circoncis, c'est-à-dire de ceux qui ne se contentent pas de l'être, mais suivent l'exemple de la foi qu'a eu notre père Abraham avant d'être circoncis. Dieu a promis à Abraham et à ses descendants qu'ils recevraient le monde comme héritage. Cette promesse a été faite non parce qu'Abraham avait obéi à la loi, mais parce qu'il a été considéré comme juste par Dieu à cause de sa foi. Si ceux qui obéissent à la loi étaient les seuls à recevoir l'héritage, alors la foi serait inutile, et la promesse de Dieu serait sans valeur. Car la loi amène la colère de Dieu, mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de désobéissance à la loi. Ainsi la promesse a été faite à cause de la foi, afin que ce soit un don gratuit de Dieu et qu'elle soit valable pour tous les descendants d'Abraham, non pas seulement pour ceux qui obéissent à la loi, mais aussi pour ceux qui croient, comme Abraham a cru. Abraham est notre père à tous. Comme le déclare l'Écriture, J'ai fait de toi le père de beaucoup de peuples. Il est notre père devant Dieu, en qui il a cru, le Dieu qui rend la vie aux morts et fait exister ce qui n'existait pas. Abraham a cru et espéré, alors qu'il n'y avait pas d'espoir. Et il devint ainsi le père de beaucoup de peuples, selon ce que Dieu lui avait dit, « Tel sera le nombre de tes descendants. » Il avait environ 100 ans, mais sa foi ne faiblit pas quand il pensa à son corps qui était déjà comme mort, et à Sarah, sa femme, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Il ne perdit pas foi et ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu. Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Voilà pourquoi Abraham, à cause de sa foi, fut considéré comme juste par Dieu. Mais ces mots, « il fut considéré comme juste », n'ont pas été écrits seulement pour lui. Ils ont été écrits aussi pour nous, qui devons être considérés comme justes, nous qui croyons en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur. Il a été livré à la mort à cause de nos péchés, et il est ressuscité pour nous rendre justes devant Dieu.
Chapitre 5.
Ainsi nous avons été rendus justes devant Dieu, à cause de la foi, et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons pu, au moyen de la foi, nous approcher de la grâce de Dieu dans laquelle nous sommes maintenant établis. Et ce qui nous donne de la joie, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous réjouissons même dans nos souffrances, car nous savons que la souffrance produit la patience produit la résistance à l'épreuve, et la résistance, l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. En effet, quand nous étions encore sans force, Christ est mort pour les méchants au moment fixé par Dieu. C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un juste. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme bon. Mais Dieu nous a montré à quel point il nous aime. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par sa mort, nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu. À plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Il y a plus encore. Nous nous réjouissons en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a maintenant réconciliés avec Dieu. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Avant que Dieu ait donné la loi à Moïse, le péché existait déjà dans le monde, mais comme il n'y avait pas encore de loi, Dieu ne tenait pas compte du péché. Pourtant, depuis l'époque d'Adam jusqu'à celle de Moïse, la mort a régné même sur les hommes qui n'avaient pas péché, comme Adam, qui désobéit à l'ordre de Dieu. Adam était l'image de celui qui devait venir. Mais la faute d'Adam n'est pas comparable en importance au don gratuit de Dieu. Certes, beaucoup sont morts à cause de la faute de ce seul homme. Mais la grâce de Dieu est bien plus grande, et le don qu'il a accordé gratuitement à beaucoup, par un seul homme, Jésus-Christ, est bien plus important. Et le don de Dieu a un tout autre effet que le péché d'un seul homme. Le jugement causé par le péché d'un seul a eu pour résultat la condamnation. Tandis que le don gratuit accordé après de nombreuses fautes a pour résultat l'acquittement. Certes, la mort a régné par la faute d'un seul, à cause d'un seul homme, mais par le seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus. tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et le don de sa justice vivront et régneront à cause du Christ. Ainsi, de même que la faute du seul Adam a entraîné la condamnation de tous les hommes, de même, l'œuvre juste du seul Jésus-Christ libère tous les hommes du jugement et les fait vivre. De même que la désobéissance d'un seul a rendu beaucoup d'hommes pécheurs, de même, l'obéissance d'un seul rendra beaucoup d'hommes justes devant Dieu. La loi est intervenue pour que les fautes se multiplient. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même, la grâce de Dieu règne par la justice pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Chapitre 6. Que dirons-nous donc? Devons-nous continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante? Certainement pas. Nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous, qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant unis à lui dans sa mort? Par le baptême, donc, nous avons été enterrés avec lui pour être morts avec lui, afin que, tout comme Christ est ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Sachons bien ceci, l'homme que nous étions auparavant a été mis à mort avec Christ sur la croix, afin que notre être pécheur soit détruit et que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous savons en effet que Christ, depuis qu'il est ressuscité, ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. En mourant, il est mort au péché une fois pour toutes. Mais dans la vie qui est maintenant la sienne, il vit pour Dieu. De même, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Le péché, donc, ne doit plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir aux désirs de ce corps. Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché comme des instruments pour accomplir le mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des hommes revenus de la mort à la vie et mettez-vous tout entier à son service comme des instruments pour accomplir ce qui est juste. Car le péché ne doit pas régner sur vous, puisque vous n'êtes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu? Certainement pas. Vous savez bien que si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez, ou bien du péché qui conduit à la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste devant Dieu. Mais Dieu soit loué. Vous qui étiez auparavant esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle contenu dans l'enseignement que vous avez reçu. Vous avez été libérés du péché et êtes devenus esclaves de la justice. J'emploie cette façon humaine de parler à cause de votre faiblesse naturelle. Auparavant, vous vous étiez mis tout entier comme des esclaves au service de l'impureté et du mal pour vivre dans le désordre. De même, maintenant, mettez-vous tout entier comme des esclaves au service de la justice pour vivre d'une manière sainte.
quand vous étiez esclave du péché. Vous étiez libre par rapport à la justice. Qu'avez-vous gagné à commettre alors des actes dont vous avez honte maintenant? Ces actes mènent à la mort. Mais maintenant, vous avez été libéré du péché. Et vous êtes au service de Dieu. Vous y gagnez d'être dirigé dans une vie sainte et de recevoir, à la fin, la vie éternelle. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle, dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur.
Chapitre 7.
Frères, vous savez sûrement déjà ce que je vais vous dire, car vous connaissez la loi. La loi a de l'autorité sur un homme seulement tant qu'il vit. Par exemple, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il vit. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi qui la liait à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre homme, alors que son mari est vivant, on l'appellera adultère. Mais si son mari meurt, elle est libre par rapport à la loi, de sorte qu'elle peut devenir la femme d'un autre homme sans être adultère. Il en va de même pour vous, mes frères. Vous êtes morts à l'égard de la loi, en étant unis au corps du Christ, pour appartenir à un autre. Vous appartenez maintenant à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous produisions des œuvres utiles pour Dieu. En effet, quand nous vivions selon notre nature humaine, les désirs mauvais excités par la loi agissaient dans notre être tout entier et nous conduisaient à la mort. Mais maintenant, nous sommes libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers. Nous pouvons ainsi servir Dieu d'une façon nouvelle, sous l'autorité de l'Esprit Saint et non plus à la façon ancienne, sous l'autorité de la loi écrite. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais la loi m'a fait connaître ce qu'est le péché. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise, si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Le péché a saisi l'occasion offerte par le commandement pour produire en moi toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est chose morte. Autrefois, sans la loi, j'étais vivant. Mais quand le commandement est intervenu, le péché a pris vie, et moi je suis mort. Le commandement qui devait conduire à la vie s'est trouvé, dans mon cas, conduire à la mort. Car le péché a saisi l'occasion, il m'a trompé au moyen du commandement, et il m'a fait mourir par ce même commandement. Ainsi, la loi elle-même est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon, est-il devenu alors une cause de mort pour moi? Certainement pas. C'est le péché qui en a été la cause. Il a fait apparaître ainsi sa véritable nature de péché. Il a utilisé ce qui est bon pour causer ma mort. Et voilà comment le péché est devenu, au moyen du commandement, plus gravement péché que jamais. Nous savons que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis un homme faible, vendu comme un esclave au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. Si ce que je fais, je ne le veux pas, je reconnais ainsi que la loi est bonne. Ce n'est donc pas moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature humaine. En effet, quoique le désir de faire le bien existe en moi, je suis pourtant incapable de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette règle. Quand je veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je trouve dans mon comportement une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Malheureux que je suis! Qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Dieu soit loué, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, je suis au service de la loi de Dieu par mon intelligence, mais mon comportement est au service de la loi du péché.
Chapitre 8.
Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par l'union avec Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Dieu a accompli ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire, parce que la nature humaine la rendait impuissante. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant son propre Fils, qui est venu dans une condition semblable à la condition pécheresse de l'homme, pour enlever le péché. Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient réalisées en nous qui vivons, non plus selon la nature humaine, mais selon l'Esprit Saint. Car ceux qui vivent selon la nature humaine se préoccupent de ce que cette nature demande. Mais ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent de ce que l'Esprit Saint demande. Se préoccuper de ce que la nature humaine demande mène à la mort. Mais se préoccuper de ce que l'Esprit Saint demande mène à la vie et à la paix. Car ceux qui ont des préoccupations humaines sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu, ils ne le peuvent même pas. Ceux qui dépendent de leur nature humaine ne peuvent plaire à Dieu. Mais vous ne vivez pas selon la nature humaine. Vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Si le Christ est en vous, alors bien que votre corps soit voué à la mort à cause du péché, en vous l'Esprit Saint est vie, parce que vous avez été rendu juste devant Dieu. Si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous. Alors, celui qui a ressuscité le Christ donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais non envers notre nature humaine, pour vivre selon ce qu'elle demande. Car si vous vivez selon votre nature humaine, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit Saint, vous faites mourir les actions de votre être naturel, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car l'Esprit Saint que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et vous remplisse à nouveau de peur. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des fils de Dieu, et qui nous permet de crier à Dieu « Mon Père ». L'Esprit de Dieu affirme lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part à l'héritage que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ. Car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. J'estime que ce que nous souffrons dans le temps présent ne peut se comparer à la gloire que Dieu nous révélera. Le monde entier attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses fils. Car le monde est tombé sous le pouvoir de ce qui ne mène à rien, non parce qu'il l'a voulu lui-même, mais parce que Dieu l'y a mis. Il y a toutefois une espérance. C'est que le monde lui-même sera libéré un jour du pouvoir destructeur qui le tient en esclavage et qu'il aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que maintenant encore, le monde entier gémit et souffre, comme souffre une femme qui accouche. Mais pas seulement le monde. Nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme la première part des dons de Dieu, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses fils et délivre entièrement notre corps. Car nous avons été sauvés. Mais c'est encore en espérance. Si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance. Qui donc espérerait encore ce qu'il voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. De même, l'Esprit Saint aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit Saint lui-même prie Dieu pour nous avec des gémissements qu'on ne peut exprimer par des paroles. Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit Saint prie pour ceux qui appartiennent à Dieu, comme Dieu le désire. Nous savons que Dieu travaille en tout pour le bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Car ceux que Dieu a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que son Fils soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes devant lui. Ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a même pas refusé son propre Fils. Mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Personne, car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il prie pour nous. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La souffrance le peut-elle, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, la pauvreté, le danger, la mort? Comme le déclare l'Écriture, « À cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie. » Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Car j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Chapitre 9.
Je dis la vérité. J'appartiens au Christ et je ne mens pas. Ma conscience, dirigée par le Saint-Esprit, m'assure aussi que c'est la vérité. Mon cœur est plein d'une grande tristesse et d'une douleur continuelle. Je souhaiterais être moi-même maudit par Dieu et séparé du Christ, pour le bien de mes frères, ceux de ma race. Ils sont les descendants d'Israël. Dieu a fait d'eux ses fils et leur a accordé sa présence glorieuse. Il a conclu ses alliances avec eux et leur a donné la loi, le culte, les promesses. Ils sont les descendants des patriarches et le Christ, en tant qu'être humain, et de leur race, lui qui est au-dessus de tout, Dieu loué pour toujours. Amen. Je ne veux pourtant pas dire que la promesse de Dieu a échoué. En effet, les descendants d'Israël ne sont pas tous le vrai peuple d'Israël. Et les descendants d'Abraham ne sont pas tous ses vrais enfants. Car Dieu a dit à Abraham, « Seuls les descendants d'Isaac seront considérés comme tiens. » C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants nés conformément à la nature qui sont les enfants de Dieu. Seuls les enfants nés conformément à la promesse de Dieu sont considérés comme les vrais descendants. Car Dieu a exprimé la promesse en ces mots, « Au moment indiqué, je reviendrai et Sarah aura un fils. » Et ce n'est pas tout. Les deux fils de Rebecca avaient le même père, notre ancêtre Isaac. Mais Dieu a son plan pour choisir les hommes. Son choix dépend de l'appel qu'il leur adresse et non de leurs actions. Pour montrer qu'il demeure fidèle à ce plan, Dieu a dit à Rebecca, alors que ses fils n'étaient pas encore nés et n'avaient donc accompli ni bien ni mal, l'aîné servira le plus jeune. Comme le déclare l'Écriture, « J'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. » Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. Car il a dit à Moïse, « J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Cela ne dépend donc pas de ce que l'homme veut ni de ses efforts, mais uniquement de Dieu qui a pitié. Dans l'Écriture, Dieu déclare au roi d'Égypte, « Je t'ai établi roi précisément pour montrer en toi ma puissance et pour faire connaître mon nom sur toute la terre. » Ainsi, Dieu a pitié de qui il veut et il endurcit le cœur de qui il veut. On me dira peut-être, s'il en est ainsi, qu'est-ce que Dieu reproche encore aux hommes? Car qui peut résister à sa volonté? Mais qui es-tu donc, toi homme, pour contredire Dieu? Le vase d'argile demande-t-il à celui qui l'a fabriqué, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Le potier peut faire ce qu'il veut avec l'argile, à partir de la même pâte. Il peut fabriquer un vase précieux et un vase ordinaire. Qu'avez-vous alors à dire au sujet de Dieu? Il a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance. C'est pourquoi il a supporté avec une grande patience ceux qui méritaient sa colère et étaient prêts à être détruits. Il a voulu aussi manifester combien sa gloire est riche pour nous dont il a pitié, pour nous qu'il a préparé d'avance à recevoir sa gloire. Car nous sommes ceux qu'il a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les autres peuples. C'est ce qu'il déclare dans le livre d'Osée. « Ceux qui ne formaient pas mon peuple, je les appellerai mon peuple. Et la nation que je n'aimais pas, je l'appellerai ma bien-aimée. » Et à l'endroit où on leur avait dit « Vous n'êtes pas mon peuple ? Là même, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » De son côté, Ésaïe s'écrit au sujet du peuple d'Israël, « Même si les membres du peuple d'Israël étaient aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, seul un petit nombre d'entre eux sera sauvé. Car le Seigneur réalisera complètement et rapidement sa parole sur la terre. » Et comme le même Ésaïe l'avait dit auparavant, « Si le Seigneur Tout-Puissant ne nous avait pas laissé quelques descendants, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre. » Que dirons-nous donc? Ceci. Des hommes qui ne sont pas juifs et qui ne cherchaient pas à se rendre justes devant Dieu ont été rendus justes devant lui par la foi. Tandis que les membres du peuple d'Israël qui recherchaient une loi leur permettant d'être justes devant Dieu n'ont pas atteint le but de la loi. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchaient pas à être agréables à Dieu par la foi. Ils pensaient l'être par des œuvres. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait trébucher dont parle l'Écriture. Voyez, je pose en Sion une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber. Mais celui qui croit en lui ne sera pas déçu.
Chapitre 10.
Frères, ce que je désire de tout mon cœur, et que je demande à Dieu pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Car je peux déclarer en leur faveur qu'ils sont pleins de zèle pour Dieu, mais leur zèle n'est pas éclairée par la connaissance. En effet, ils n'ont pas compris comment Dieu rend les hommes justes devant lui, et ils ont cherché à établir leur propre façon d'être justes. Ainsi, ils ne se sont pas soumis à la façon dont Dieu rend les hommes justes. Car le Christ a amené la loi de Moïse à sa fin pour que tous ceux qui croient soient rendus justes devant Dieu. Voici ce que Moïse a écrit au sujet de la possibilité d'être rendu juste devant Dieu par l'obéissance à la loi. L'homme qui met en pratique la loi vivra par elle. Mais voilà comment il est parlé de la possibilité d'être juste devant Dieu par la foi. Ne dis pas en toi-même « qui montera au ciel », c'est-à-dire pour en faire descendre le Christ. Ne dis pas non plus « qui descendra dans le monde d'en bas », c'est-à-dire pour faire remonter Christ d'entre les morts. Qu'est-il dit alors? Ceci. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est le message de la foi que nous prêchons. Si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car l'homme croit dans son cœur et Dieu le rend juste devant lui. L'homme affirme avec sa bouche, et Dieu le sauve. L'Écriture déclare en effet, « Tout homme qui croit en lui ne sera pas déçu. » Ainsi, il n'y a pas de différence entre les Juifs et les non-Juifs. Ils ont tous le même Seigneur, qui donne ses biens à tous ceux qui l'invoquent. Car, comme le déclare l'Écriture, tout homme qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment l'invoqueront-ils sans avoir cru en lui? Et comment croiront-ils en lui sans en avoir entendu parler? Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas des hommes envoyés pour cela? Comme le déclare l'Écriture, qu'il est beau de voir venir ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas accepté la bonne nouvelle. Ésaïe dit en effet, « Seigneur, qui a cru notre message ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on écoute le message, et le message est l'annonce de la parole du Christ. Je demande alors, n'aurait-il pas entendu ce message? Mais oui, ils l'ont entendu. L'Écriture déclare, « La voix des messagers de Dieu s'est fait entendre sur toute la terre, et leurs paroles ont atteint les régions les plus lointaines du monde. Je demande encore, le peuple d'Israël n'aurait-il pas compris? Comme réponse, voici d'abord ce qu'annonce Moïse. Je vous rendrai jaloux de ceux qui ne sont pas une vraie nation, dit Dieu. J'exciterai votre colère contre une nation sans intelligence. Plus encore, Ésaïe ose proclamer, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, dit Dieu. Je me suis montré à ceux qui ne me demandaient rien. Mais au sujet d'Israël, il annonce, tout le jour j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle.
Chapitre 11.
Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas. Car je suis moi-même israélite, descendant d'Abraham, membre de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance comme sien. Vous savez, n'est-ce pas, ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie se plaint d'Israël devant Dieu. Seigneur, ils ont tué tes prophètes et démoli tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à me tuer. Mais que lui répondit Dieu? J'ai gardé pour moi 7000 hommes qui ne se sont pas mis à genoux devant le dieu Baal. De même, dans le temps présent, il reste un petit nombre de gens que Dieu a choisis par bonté. Il les a choisis à cause de sa bonté et non pas à cause de leurs actions. Sinon, la bonté de Dieu ne serait pas vraiment de la bonté. Que dire alors? Le peuple d'Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherchait. Seuls ceux que Dieu a choisis l'ont obtenu. Les autres sont devenus incapables de comprendre, comme le déclare l'Écriture. Dieu a rendu leur esprit insensible. Il a fait en sorte qu'ils ne voient pas avec leurs yeux et qu'ils n'entendent pas avec leurs oreilles jusqu'à ce jour. David dit aussi, que leur repas soit pour eux un piège, une trappe, afin qu'ils tombent et soient punis. Que leurs yeux se ferment pour qu'ils ne voient plus. Fais-leur sans cesse courber le dos. Je demande donc, quand les Juifs ont trébuché, sont-ils tombés définitivement? Certainement pas. Mais à cause de leur faute, les autres peuples ont pu obtenir le salut, de manière à rendre les Juifs jaloux d'eux. Si la faute des Juifs a enrichi spirituellement le monde, et si leur abaissement a enrichi spirituellement les autres peuples, combien plus grand encore sera l'effet produit par leur complet retour au salut. Je m'adresse maintenant à vous qui n'êtes pas juifs. Je suis l'apôtre destiné au peuple non-juif, et en tant que tel, je me réjouis de la tâche qui est la mienne. J'espère ainsi exciter la jalousie des gens de ma race pour en sauver quelques-uns. En effet, quand ils ont été mis de côté, le monde a pu être réconcilié avec Dieu. Qu'arrivera-t-il alors quand ils seront accueillis? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Si le premier morceau de pain est présenté à Dieu, tout le reste du pain lui appartient aussi. Si les racines d'un arbre sont offertes à Dieu, les branches lui appartiennent aussi. Le peuple d'Israël est comme un olivier cultivé, dont quelques branches ont été coupées. Toi qui n'es pas juif, tu es comme une branche d'olivier sauvage greffée à leur place. Tu profites maintenant aussi de la racine qui nourrit l'olivier cultivé. C'est pourquoi tu ne dois pas mépriser les branches coupées. Comment pourrais-tu te vanter? Ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu vas me dire, mais ces branches ont été coupées pour que je sois greffé à leur place. C'est juste. Elles ont été coupées parce qu'elles ont manqué de foi, et tu es à cette place en raison de ta foi. Mais garde-toi de l'orgueil. Crains plutôt. Car si Dieu n'a pas épargné les Juifs, qui sont des branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Remarque comment Dieu montre sa bonté et sa sévérité. Il est sévère envers ceux qui sont tombés, et il est bon envers toi. Mais il faut que tu demeures dans sa bonté, sinon tu seras aussi coupé comme une branche. Et si les Juifs renoncent à leur incrédulité, ils seront greffés là où ils étaient auparavant. Car Dieu a le pouvoir de les greffer de nouveau. Toi, qui n'es pas juif, tu es la branche naturelle d'un olivier sauvage. On l'a coupé et greffé, contrairement à l'usage naturel, sur un olivier cultivé. Les Juifs, eux, sont les branches naturelles de cet olivier cultivé. Il sera donc beaucoup plus facile de les greffer de nouveau sur l'arbre auquel ils appartenaient déjà. Frères, voici une vérité secrète que je veux vous faire connaître, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie du peuple d'Israël est devenue incapable de comprendre, mais cela ne durera que jusqu'à ce que l'ensemble des autres peuples soit parvenu au salut. Et voilà comment tout Israël sera sauvé. Comme le déclare l'Écriture, le libérateur viendra de Sion. Il enlèvera toute méchanceté des descendants de Jacob, et voici l'alliance que je ferai avec eux quand j'ôterai leurs péchés. Si l'on considère comment les Juifs ont refusé la bonne nouvelle, ils sont les ennemis de Dieu pour votre bien. Mais si l'on considère le choix fait par Dieu, ils sont ceux que Dieu aime à cause de leurs ancêtres. Car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés. Autrefois, vous avez désobéi à Dieu, mais maintenant, vous avez connu la pitié de Dieu parce que les Juifs ont désobéi. De même, ils ont désobéi maintenant pour que la pitié de Dieu vous soit accordée, mais afin qu'eux aussi puissent connaître maintenant cette même pitié. Car Dieu a rendu tous les hommes prisonniers de la désobéissance afin de leur montrer à tous sa pitié. Que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Qui pourrait expliquer ses décisions? Qui pourrait comprendre ses plans? Comme le déclare l'Écriture, qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut être son conseiller? Qui a pu le premier lui donner quelque chose pour recevoir de lui un paiement en retour? Car tout vient de lui. Tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen.
Chapitre 12.
Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa pitié pour nous, je vous demande de vous offrir vous-même comme un sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer par un changement complet de votre intelligence. Vous pourrez alors comprendre ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous. N'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Ayez au contraire des pensées modestes. Que chacun de vous s'estime d'après la part de foi que Dieu lui a donnée. Dans un seul corps humain, nous avons plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. Nous avons des dons différents que nous devons utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don d'annoncer des messages reçus de Dieu, il doit le faire selon la foi qui est la sienne. Si un autre a le don de servir, qu'il serve. Celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. L'amour doit être sincère. Détestez le mal. Attachez-vous au bien. Ayez de l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment. Ayez aussi de l'ardeur à vous respecter mutuellement. Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'énergie. Soyez joyeux à cause de votre espérance et patient dans les souffrances. Priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères dans le besoin et recevez bien ceux qui viennent chez vous. Demandez à Dieu de bénir ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Réjouissez-vous avec ceux qui sont joyeux, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en bon accord les uns avec les autres. Ne soyez pas orgueilleux, mais acceptez des tâches modestes. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez à faire le bien devant tous les hommes. Faites tout votre possible, dans la mesure où cela dépend de vous, pour vivre en paix avec tous. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car l'Écriture déclare, « C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai en retour, dit le Seigneur. » Et elle déclare aussi, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons brûlants sur sa tête. » Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal par le bien.
Chapitre 13.
Tout homme doit se soumettre aux autorités qui gouvernent l'État, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été établies par Dieu. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre établi par Dieu. Ceux qui s'y opposent attireront le jugement sur eux-mêmes. En effet, les dirigeants ne sont pas à craindre par ceux qui font le bien, mais par ceux qui font le mal. Désires-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Alors fais le bien, et elle t'accordera des éloges, car elle est au service de Dieu pour te pousser au bien. Mais si tu fais le mal, crains-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle a le pouvoir de punir. Elle est au service de Dieu pour montrer la colère de Dieu en punissant celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement pour éviter la colère de Dieu, mais encore par devoir de conscience. C'est aussi pourquoi vous payez des impôts, car les fonctionnaires qui s'en occupent sont au service de Dieu pour accomplir soigneusement cette tâche. Payez à tous ce que vous leur devez. Payez l'impôt à qui vous devez l'impôt et la taxe à qui vous la devez. Montrez du respect à qui vous le devez et honorez celui à qui l'honneur est dû. N'ayez de dette envers personne, sinon la dette de l'amour que vous vous devez les uns aux autres. Celui qui aime les autres a obéi complètement à ce qu'ordonne la loi. En effet, les commandements « Ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne convoite pas » ceci et tous les autres se résument dans ce seul commandement « Aime ton prochain comme toi-même ». Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. En aimant, on obéit donc complètement à la loi. Agissez ainsi d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant que lorsque nous avons cru pour la première fois. La nuit est avancée. Le jour approche. Rejetons donc les œuvres qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qui permettent de lutter dans la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme il le faut à la lumière du jour. Gardons-nous des orgies et de l'ivrognerie, de l'immoralité et des vices, des querelles et de la jalousie. Revêtez-vous de la vie nouvelle qui est en Jésus-Christ, le Seigneur, et ne vous laissez plus entraîner par votre nature humaine pour en satisfaire les désirs.
Chapitre 14.
Accueillez celui qui est faible dans la foi sans critiquer ses opinions. Par exemple, l'un croit pouvoir manger de tout, tandis que l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Celui qui mange de tout ne doit pas mépriser celui qui ne mange pas certains aliments. Et celui qui ne mange pas certains aliments ne doit pas juger celui qui mange de tout, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il demeure ferme dans son service ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Et il demeurera ferme, car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. L'un pense que certains jours ont plus d'importance que d'autres, tandis que l'autre pense que tous les jours sont pareils. Il faut que chacun soit bien convaincu dans son propre esprit. Celui qui attribue de l'importance à un jour particulier le fait pour honorer le Seigneur. Celui qui mange de tout agit ainsi pour honorer le Seigneur, car il remercie Dieu pour son repas. Celui qui ne mange pas de tout agit ainsi pour honorer le Seigneur, et il remercie Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Car le Christ est mort, et il est ressuscité pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous aurons tous à nous présenter devant Dieu pour être jugés par lui. Car l'Écriture déclare « Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout homme se mettra à genoux devant moi, et chacun reconnaîtra à haute voix la puissance de Dieu. Ainsi, chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. Cessons donc de nous juger les uns les autres. Prenez plutôt la décision que voici. Ne rien faire qui amène votre frère à trébucher ou à tomber dans le péché. Dans l'union avec le Seigneur Jésus, je sais de façon tout à fait certaine que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un pense qu'une chose est impure, elle devient impure pour lui. Si tu fais de la peine à ton frère à cause d'un aliment que tu manges, tu ne te conduis plus selon l'amour. Ne va pas entraîner la perte de celui pour qui le Christ est mort simplement à cause de ce que tu manges. Ce qui est bien pour vous ne doit pas devenir pour d'autres une occasion de dire du mal. Car le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boisson. Il consiste en la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Recherchons donc ce qui est utile pour la paix et nous permet de nous fortifier ensemble dans la foi. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu pour une question de nourriture. Certes, tous les aliments peuvent être mangés, mais il est mal de manger quelque chose si l'on fait ainsi tomber un frère dans le péché. Ce qui est bien, c'est de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de renoncer à tout ce qui peut faire tomber ton frère. Ce que tu crois personnellement à ce sujet, garde-le pour toi devant Dieu. Heureux est celui qui ne se sent pas coupable au moment où il décide d'agir. Mais celui qui a des doutes au sujet d'un aliment est condamné par Dieu s'il en mange parce qu'il n'agit pas selon la foi. Et tout acte qui ne vient pas de la foi est péché.
Chapitre 15.
Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons aider les faibles à porter leur faiblesse. Nous ne devons pas vivre pour ce qui nous plaît. Il faut que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, pour le faire progresser dans la foi. Car le Christ n'a pas vécu pour ce qui lui plaisait. Au contraire, comme le déclare l'Écriture, les insultes de ceux qui t'insultaient sont tombées sur moi. Tout ce que nous trouvons dans les Écritures a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et de l'encouragement que nous donnent les Écritures. Que Dieu, de qui viennent la patience et l'encouragement, vous rendent capables de vivre en bon accord les uns avec les autres, en suivant l'exemple de Jésus-Christ, afin que, tous ensemble et d'une seule voix, vous louiez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Car je vous l'affirme, Christ est devenu le serviteur des Juifs pour accomplir les promesses que Dieu a faites aux patriarches et montrer ainsi que Dieu est fidèle. Il est venu aussi pour que les non-Juifs louent Dieu à cause de sa bonté, comme le déclare l'Écriture. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai en l'honneur de ton nom. Elle déclare aussi: Nation, réjouissez-vous avec le peuple que Dieu a choisi. Et encore, vous, toutes les nations, louez le Seigneur, que tous les peuples le louent. Ésaïe dit aussi, le descendant de Jessé viendra, il se lèvera pour gouverner les nations, et elles mettront leur espoir en lui. Que Dieu qui donne l'espérance vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par la foi que vous avez en lui, afin que vous soyez riches en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Mes frères, je suis moi-même certain que vous êtes remplis de bonté, pleinement au courant de tout ce qu'il faut connaître, et capable de vous donner des conseils les uns aux autres. Pourtant, je vous ai écrit avec une certaine audace en plusieurs endroits de ma lettre, pour vous rappeler ce que vous aviez déjà appris. J'ai écrit ainsi à cause de la faveur que Dieu m'a accordée d'être serviteur de Jésus-Christ pour les peuples non-juifs. J'accomplis un service sacré en annonçant la bonne nouvelle de Dieu afin que les peuples non-juifs deviennent une offrande agréable à Dieu, rendue digne d'être à lui par le Saint-Esprit. Dans l'union avec Jésus-Christ, je peux donc être fier de mon travail pour Dieu. Car si j'ose parler de quelque chose, c'est uniquement de ce que le Christ a réalisé par moi pour amener ceux qui ne sont pas juifs à obéir à Dieu. Il l'a fait au moyen de paroles et d'actions, par la puissance de signes et de miracles, et par la puissance de l'Esprit-Saint. C'est ainsi que j'ai annoncé pleinement la bonne nouvelle qui concerne le Christ, en allant de tous côtés, depuis Jérusalem jusqu'à la région d'Illyrie. Mais j'ai tenu à annoncer la bonne nouvelle uniquement dans les endroits où l'on n'avait pas entendu parler du Christ, afin de ne pas bâtir sur les fondations posées par quelqu'un d'autre et d'agir selon ce que déclare l'Écriture. Ceux à qui on n'avait rien dit de lui verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. C'est là ce qui m'a empêché bien des fois d'aller chez vous. Mais maintenant j'ai terminé mon travail dans ces régions-ci. Depuis de nombreuses années, je désire vous rendre visite, et je voudrais le faire quand je me rendrai en Espagne. Car j'espère vous voir en passant, et recevoir votre aide pour aller dans ce pays, après avoir profité de votre compagnie pendant quelque temps. Mais pour le moment, je vais à Jérusalem, pour le service des membres du peuple de Dieu qui sont là-bas. Car les chrétiens de Macédoine et de Grèce ont décidé de faire une collecte en faveur des pauvres appartenant au peuple de Dieu à Jérusalem. Ils l'ont décidé eux-mêmes. Mais en réalité, ils le devaient à ces pauvres. Car les chrétiens juifs de Jérusalem ont partagé leurs biens spirituels avec ceux qui ne sont pas juifs. Les non-juifs doivent donc aussi les servir en les aidant de leurs biens matériels. Quand j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis le produit de cette collecte, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous en m'y rendant. Et je sais que lorsque j'irai chez vous, j'arriverai avec la pleine bénédiction du Christ. Mais voici ce que je vous demande, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que donne l'Esprit-Saint. Combattez avec moi en adressant à Dieu des prières pour moi. Priez pour que j'échappe aux incroyants de Judée, et pour que l'aide que j'apporte à Jérusalem soit bien accueillie là-bas par les membres du peuple de Dieu. De cette façon, j'arriverai chez vous plein de joie, si Dieu le veut, et je trouverai du repos au milieu de vous. Que Dieu, qui donne la paix, soit avec vous tous. Amen.
Chapitre 16.
Je vous recommande notre sœur Phébé, qui travaille au service de l'église de Sancré. Recevez-la au nom du Seigneur, comme on doit le faire entre membres du peuple de Dieu, et aidez-la en toute affaire où elle peut avoir besoin de vous. Elle a elle-même aidé beaucoup de gens, et moi en particulier. Saluez Priscille et Aquilas, mes compagnons de travail, dans le service de Jésus-Christ. Ils ont risqué leur propre vie pour sauver la mienne. Je ne suis pas seul à leur être reconnaissant, toutes les églises du monde non-juif le sont aussi. Saluez également l'église qui se réunit dans leur maison. Saluez mon cher Epaynette, qui fut le premier à croire au Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie, qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andronicus et Junias, qui me sont apparentés et ont été en prison avec moi. Ils sont très estimés parmi les apôtres, et ils sont même devenus chrétiens avant moi. Saluez Ampliatus, mon ami dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon de travail dans le service du Christ. Et mon cher Stachys. Saluez Apelles, qui a donné des preuves de sa foi en Christ. Saluez les gens de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez les gens de la maison de Narcisse, qui croient au Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur, et ma chère Perside, qui a beaucoup travaillé pour lui. Saluez Rufus, ce remarquable serviteur du Seigneur, et sa mère, qui est aussi une mère pour moi. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les autres frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur, Olympas et tous les membres du peuple de Dieu qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres d'un baiser fraternel. Toutes les églises du Christ vous adressent leurs salutations. Je vous le demande, frères, prenez garde à ceux qui suscitent des divisions et égarent les croyants en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car les gens de cette espèce ne servent pas le Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils trompent l'esprit des gens simples. Tout le monde connaît votre obéissance au Seigneur. Je me réjouis donc à votre sujet, mais je désire que vous soyez sages pour faire le bien et purs en évitant le mal. Dieu qui donne la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Timothée, mon compagnon de travail, vous salue, ainsi que Lucius, Jason, et Sosipater, mes parents. Gaius, l'hôte qui me reçoit, et chez qui se réunit toute l'Église, vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, et notre frère Quartus, vous salue. Et moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre sous dictée, je vous envoie mes salutations chrétiennes. Louons Dieu. Il a le pouvoir de vous rendre fort dans la foi, selon la bonne nouvelle que j'annonce, le message que je prêche au sujet de Jésus-Christ, et selon la connaissance que nous avons reçue du plan secret de Dieu. Ce plan a été tenu caché très longtemps dans le passé, mais maintenant, il a été mis en pleine lumière par les livres des prophètes. Conformément à l'ordre du Dieu éternel, il est porté à la connaissance de toutes les nations pour qu'elles croient et obéissent. À Dieu, seul sage, soit la gloire, par Jésus-Christ, pour toujours. Amen.